Mardi Politique. Clarisse Verne.
Suite de Mardi Politique, RFI 20 minutes le point et France 24 avec notre seconde invitée, Nathalie Arthaud, candidate de lutte ouvrière pour la présidentielle. Nathalie Arthaud, bonsoir.
Bonsoir.
Vous avez succédé à Arlette Laguiller, vous êtes professeure d'économie et de gestion, vous êtes porte-parole du parti d'extrême gauche lutte ouvrière depuis fin 2008. Vous êtes aujourd'hui comme Nicolas Dupont-Aignan qui vient de nous quitter, crédité de 0,5% des intentions de vote. Toujours à mes côtés pour vous interroger, Benoît Quémard de 20 minutes, Charlotte Chaffanjon du Point et Rosine Fèvre de France 24. Nathalie Arthaud, comment vivez-vous le fait de succéder à Arlette Laguiller? Cette figure tutélaire ne vous pèse-t-elle pas?
Je suis fière. Voilà, je suis fière de lui succéder et surtout je mesure la responsabilité que c'est, effectivement, parce que beaucoup de sympathisants, beaucoup de travailleurs étaient attachés effectivement à Arlette et se sentaient représentés par elle. Et
donc elle a été candidate 5 fois.
Je dois être à la hauteur 6 fois.
6 fois. Alors vous voyez encore.
Donc voilà, c'est être à la hauteur. Ouais, c'est une responsabilité importante.
Il fallait inventer quelque chose, un nouveau personnage, ne plus dire travailleuse, travailleur, qu'on a entendu pendant des années, on vous spolie. Comment avez-vous fait, dans le fond, pour trouver votre propre personnalité? Sur quoi vous vous êtes appuyé?
Eh bien, tout simplement, parce qu'on n'invente rien. Voilà, Arlette Laguiller n'inventait pas son personnage.
Elle l'a inventé. Arlette, c'était Arlette.
Oui, mais c'était la vraie Arlette. Voilà, et le travailleuse-travailleur, je le reprends, évidemment. Je le reprends parce que c'est pas seulement une marque, c'est pas un slogan, c'est une politique. C'est dire que dans la société, bah oui, il y a deux camps, deux classes sociales qui ont des intérêts opposés, contradictoires, et quand les uns payent pour la crise, eh bien les autres s'en sortent indemnes. Voilà.
Est-ce qu'on peut être encore aussi manichéen aujourd'hui? Les patrons d'un côté, les salariés, les ouvriers de l'autre.
Plus que jamais, parce que vous savez, la réalité, elle est manichéenne. Quand vous voyez ses patrons se verser 200, 300 fois le SMIC et puis expliquer ensuite aux travailleurs qu'ils n'ont plus de quoi payer pour les cotisations retraite, santé, familiale, et qu'il faut que les travailleurs se serrent la ceinture, qu'il n'est plus que les salaires soient bloqués. Oui, c'est la réalité est comme cela. Elle est, c'est vrai que vous savez, un groupe comme PSA, le PDG était surnommé Monsieur 9000 euros parce qu'il faisait 9000 euros par jour, et l'année dernière, il a accordé 90 centimes d'augmentation par jour aux ouvriers de Peugeot Citroën. Alors, vous voyez, c'est ça la réalité.
Qu'il est riche, dans le fond.
C'est surtout que aujourd'hui, les riches, et je parle de ceux qui possèdent effectivement des millions et des milliards, et qui, en vertu de ces capitaux qu'ils apportent dans les entreprises, décident librement de l'avenir de l'entreprise, décide des fois de la vie ou de la mort de l'entreprise, décide de mettre dehors, de mettre à la porte des milliers de travailleurs, décide de les condamner à la misère. Moi, c'est ce pouvoir-là que je dénonce et que je trouve révoltant, voilà, parce que moi, j'imagine une société autrement organisée.
Et pourquoi vous révoltez pas contre les... Pardon, et après j'arrête, mais pourquoi vous révoltez pas, par exemple, contre les joueurs de football qui gagnent des millions aussi
Mais parce que les joueurs de football n'exploitent que le ballon, vous voyez, ils n'exploitent personne d'autre, et les joueurs de football, ils ont le pouvoir sur aucun, et y compris s'ils jouent mal leur match, ils vont pas ruiner l'économie, ils vont pas nous plonger dans une crise sans nom. Mais moi, ce que je dénonce, c'est bien ce pouvoir de cette minorité capitaliste qui dirige qu'en fonction de ses profits égoïstes individuels, et qui est prête effectivement à sacrifier la vie, y compris de ceux qui ont fait leur fortune, et qui est prête même à jouer l'économie à la roulette russe. Donc c'est ce pouvoir-là, moi, que je conteste.
Vous dites que ce n'est pas un programme réalisable dans le cadre d'une élection, c'est un programme de lutte. Et vous le dites dans votre programme, et qui s'articule sur 3 idées, notamment interdire les licenciements, etc. Mais comment on peut quand même se présenter à l'élection présidentielle avec des idées comme ça, et comment elles peuvent influencer la gauche, on va dire, ou je ne sais pas qui, pour que vos idées aient un sens, et que vous ne soyez pas simplement là à donner un programme de lutte qui ne sera pas applicable du tout?
Mais justement, parce que nous ne cherchons pas à influencer
Il faut que ça serve à quelque chose.
Gauche. Non, parce que la réalité, c'est que justement, nous pensons que s'il y a une force sociale qui est en mesure d'imposer effectivement nos objectifs, qui sont l'interdiction des licenciements, l'augmentation des salaires et leur indexation nécessaire sur les prix.
Mais il faut aussi que ce soit durable et viable.
Cette idée que les travailleurs doivent contrôler ce qui se passe dans les entreprises, nous pensons que cela, ça ne peut être imposé que collectivement par une mobilisation des travailleurs eux-mêmes.
Donc, c'est la lutte.
Voilà. Donc, effectivement, c'est la lutte, c'est changer le rapport de force. Vous comprenez, j'ai refait le bilan cet après-midi des promesses de Nicolas Sarkozy. Alors lui, il avait un programme électoral, il n'y a pas de souci. Hein. Ah, il en a jeté des promesses. Hein. Pouvoir d'achat, le président du pouvoir d'achat. Il y a eu la crise. Et voilà comment. Voilà. Alors finalement, qui c'est qui dirige cette société? Dites-moi. Ceux qui nous font des belles promesses, qui nous disent votez pour moi, je vais faire ci, je vais faire ça. Ou est-ce que c'est finalement ceux qui mettent l'économie dans la crise? Alors, vous voyez, nous disons la réalité justement. Et la vérité, c'est que les vrais maîtres de l'économie, eh bien, c'est le grand capital. Et c'est eux, effectivement.
Ce sont les banques, c'est ça que vous voulez dire?
C'est les banques. Absolument, c'est les grands actionnaires des banques, les grands actionnaires de ces 200 grandes entreprises, vous savez, qui font la pluie et le beau temps dans le pays. C'est ceux-là. Et ceux-là, ils ont une politique. Hein, au moment où Sarkozy disait qu'il voulait ramener le chômage à 5%, eux, fermer des sites, supprimer à tour de bras des emplois, licenciés. Et c'est comme ça qu'il y a eu 1 million de chômeurs supplémentaires.
Nathalie Arthaud.
Donc, ils peuvent avoir tous les beaux programmes qu'ils veulent et les belles promesses qu'ils veulent. La société et l'économie, elle est dirigée par certains qui, eux aussi, ont leurs projets.
Mais comment vous expliquez, Nathalie Arthaud, la viabilité de votre programme, justement, dans cette économie mondialisée? On ne peut pas s'en sortir comme ça.
C'est toujours libéral.
Vous êtes en train de me dire quoi? Que revendiquer que chacun ait un emploi, ait un salaire digne, un salaire qui permette de suivre les prix, de payer pour un logement.
Vous êtes en train de me dire que
c'est une hérésie économique. Vous êtes en train de me dire cela. Eh bien, moi, je dis que non. Je dis qu'une économie, la 5e puissance du monde, qui fait des richesses, qui fait 73 milliards de profits, eh bien, elle est capable, effectivement, de verser un salaire digne, c'est-à-dire un salaire qui suit au moins l'augmentation du carburant, des loyers, des mutuelles. Je pense aussi qu'elle est capable de préserver les emplois, c'est-à-dire les conditions d'existence des travailleurs, que ça ne doit pas être une hérésie. Et si c'est une hérésie économique, eh bien, je dis que là, il faut quand même qu'on tire une conclusion. C'est que notre économie, là, elle marche sur la tête et qu'il faut en changer de fond en comble. Voilà la seule conclusion à laquelle il faut arriver.
Nathalie Arthaud, vous êtes professeure d'économie et de gestion dans un lycée professionnel, si je...
Non, dans un lycée technologique.
Dans un lycée,
un lycée polyvalent, en réalité, parce que maintenant, dans les lycées polyvalents, il y a les séries générales et technologiques.
Alors, est-ce que vous enseignez votre programme à vos étudiants? Comment vous faites pour enseigner l'économie et la gestion aujourd'hui?
Je fais exactement comme tout journaliste quand il fait son travail, c'est-à-dire qu'il met ses idées de côté.
Alors,
parce que je pense bien que les journalistes ont aussi leurs idées, ont parfois leurs syndicats, ont leur parti préféré et vont voter également. Donc, quand ils travaillent, ils sont au travail. Ils font preuve d'objectivité, de neutralité.
Ils font leur travail. Vous ne leur enseignez pas votre programme,
moi aussi.
Que vous n'y croyez pas vous-même.
Je suis en train de vous expliquer que quand je suis au travail, je fais mon travail. Et donc, je respecte le programme, tout simplement. Et vous savez, j'ai un avantage sur vous, journaliste. C'est que mon métier, c'est aussi de développer l'esprit critique. Donc de faire réfléchir, justement, développer les arguments contradictoires. Donc tout ça, ça laisse aussi l'espace au débat. Et d'ailleurs, je peux vous dire que les jeunes, ils aiment discuter dans tous les sens. Et par ailleurs, ils ont aussi leurs idées.
Vous parlez de supprimer l'armée. Par quoi on la remplace? Et est-ce que c'est pas dangereux de supprimer la défense? Puisqu'en fait, l'armée sert surtout à se défendre.
De se défendre contre qui? Depuis la Seconde Guerre mondiale, la France était menacée d'être envahie par qui? Dites-moi.
Et des menaces terroristes.
Dites-moi, moi, ce que je sais, c'est que l'armée, elle est allée effectivement en Algérie. C'est l'armée qui nous protège des menaces terroristes?
C'est l'armée qui va chercher des gens qui sont kidnappés en mer Rouge ou ailleurs.
Moi, ce que je sais, c'est que l'armée française, effectivement, elle a fait la guerre en Algérie. Elle supporte et elle soutient bien des dictateurs qui font le malheur de leur peuple aux quatre coins du monde. Et évidemment, nous n'avons rien à voir avec cela.
Alors, Nathalie Arthaud, vous qui n'êtes pas une professionnelle de la politique, on peut dire ça sans vous froisser.
Ah, mais tout à fait.
Comment vous qualifieriez cette campagne électorale, la première là que vous faites aujourd'hui?
Écoutez,
il y en a certains qui disent qu'elle est nulle. Bah, Nicolas Dupont-Aignan.
Moi, je fais pas de commentaires. Moi, j'utilise tous mes espaces d'expression pour défendre mes idées, voilà, mes convictions, et je laisse les uns ou les autres faire les commentaires qu'ils veulent. Moi, je tiens justement à dire aux travailleurs, eh bien, qu'il faut pas se résigner, que ce chômage qui monte, eh bien, il y a le moyen de le combattre, ce n'est pas une fatalité. Les petits salaires, ce n'est pas une fatalité. Les petites pensions de retraite. Donc voilà, pour moi, c'est un moment qui est enthousiasmant, parce que c'est un moment où justement je peux défendre mes idées.
Alors justement, pourquoi aujourd'hui voter Lutte ouvrière et donc pour vous, plutôt que pour Philippe Poutou, Jean-Luc Mélenchon ?
Ah bah d'abord, je crois qu'il y a une distinction à faire entre Philippe Poutou et Jean-Luc Mélenchon.
Il est pour la révolution, Mélenchon. Vous êtes d'accord avec moi ?
Non, mais vous savez, justement, Jean-Luc Mélenchon, il est pour la révolution citoyenne. Pourquoi n'est-il pas pour la révolution communiste ? Moi, je suis pour la révolution communiste.
La
révolution sociale. La différence, elle est fondamentale. C'est qu'effectivement, Jean-Luc Mélenchon nous dit révolution citoyenne pour voter pour lui, mais pour qui dirige ? Dans le cadre de l'économie capitaliste, Jean-Luc Mélenchon n'est pas anticapitaliste et il a toute une série de mesures pour relancer, nous dit-il, l'économie.
Contre les plans d'austérité.
Mais il y en a d'autres à l'échelle, vous savez. Est-ce que vous lui avez demandé à Jean-Luc Mélenchon s'il était communiste ? Il n'est pas communiste, Jean-Luc Mélenchon, il est socialiste. Bon, alors écoutez, au moins respectons quand même ce qu'il dit, tout simplement. Et d'ailleurs, il tient toujours à se défendre du fait d'être mis dans l'extrême gauche. Parce que lui, il est bien, c'est bien dans la ligne de la gauche gouvernementale. Jean-Luc Mélenchon, vous savez, c'est la politique de Mitterrand un peu réchauffée. C'est ça.
Et vous, la révolution communiste, donc, c'est...
Nous disons effectivement que si on veut véritablement reprendre la maîtrise de l'économie, et si on veut empêcher, y compris que les banques continuent cette spéculation et continuent de mettre toute la société sous la menace d'une nouvelle crise, eh bien il faut les exproprier.
Mais sauf que vous
les exproprier, les nationaliser, sans indemnité ni rachat, fusionner les banques en un seul établissement de crédit et le faire fonctionner sous le contrôle de la population et des usagers des banques.
Donc ils ne travaillent pas pour les marchés.
Voilà, exactement, ils travaillent pour l'activité des banques, pour servir les intérêts à la population, aux petits paysans. Ils pourraient emprunter sur les marchés, mais en tout cas, on déciderait, vous savez, contrôler les banques, ça permettrait effectivement de contrôler y compris la destination des capitaux. Et aujourd'hui, ces capitaux, on voit qu'ils alimentent la spéculation et les banques sont la plaque tournante de ce grand casino mondial. Donc ça voudrait dire contrôler les capitaux, ça voudrait dire décider de les investir dans les secteurs utiles à la population, à commencer par exemple par le secteur du logement. Parce que quand on regarde dans toutes les défaillances finalement du secteur privé, eh bien il y a cet échec-là vis-à-vis du logement. On voit que ça n'intéresse aucun marchand de béton de construire des logements sociaux. Eh bien voilà où les capitaux pourraient être utilisés à construire des logements sociaux.
Est-ce qu'une grande banque nationalisée unique en France pourrait emprunter sur les marchés financiers pour ensuite prêter pour construire des logements ? Est-ce qu'elle trouverait l'argent ?
Et pourquoi pas ? Vous imaginez rien d'autre que cette économie-là ? Pour vous, c'est vraiment l'idéal, le nec plus ultra de ce qu'on peut faire. Moi, je crois qu'on pourrait, et je crois que voilà. Et je suis même pour aller plus loin que ça en réalité. Je suis y compris pour qu'on contrôle ces grands groupes du CAC 40 qui pèsent sur toute l'économie et dont dépendent en fait des millions d'entreprises, de PME et de petites entreprises. Et ça serait ça, diriger collectivement et démocratiquement une économie. Ça serait dire voilà les moyens dont on dispose pour produire et voilà les besoins dont on a qu'on a dans la société à l'échelle de toute la population et qu'on puisse le mettre en correspondance. Ce qui est fou, c'est qu'aujourd'hui, il y a à la fois des capitaux qui ne trouvent pas à s'investir, si ce n'est dans la spéculation, alors qu'il y a des manques criants, pour produire.
Comment feraient les PME, les petits artisans, qui sont des entrepreneurs, qui sont capitalistes, qui sont des petits patrons, mais qui ne sont pas des grands dirigeants du CAC 40 ? Est-ce que ceux-là aussi, on les nationalise, on leur impose des salaires plafonds ?
Non, pas forcément, parce que le problème, c'est la maîtrise. C'est la maîtrise et le contrôle de l'économie, c'est le contrôle du secteur de l'énergie, des transports, de la grande distribution. Mais justement, les artisans, mais moi j'ai rien contre. Et c'est pas moi qui suis contre la libre entreprise, c'est les gros, c'est y compris les banques qui les prennent à la gorge, c'est les donneurs d'ordre qui leur imposent regardez comment sont traités les petits paysans. Ils décident ni des prix auxquels ils vendent, ni les prix auxquels ils achètent leurs semences, leurs aliments pour bétail, rien du tout. Ils sont entre le marteau et l'enclume. Moi j'ai rien contre tous ces petits commerçants et artisans qui font bien bien des choses utiles. Donc non, je ne parle pas d'eux quand je dis, mais je dis qu'il faut qu'on reprenne, oui, le contrôle de ces grands groupes,
Charlotte,
et qu'on les organise, voilà, pour l'intérêt collectif.
Vous êtes à gauche, l'une de celles qui a le discours le plus dur envers Jean-Luc Mélenchon. Vous venez de nous parler de Mitterrand réchauffé, etc. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui vous réjouit à voir quelqu'un à gauche de la gauche qui a sur certains points un discours quand même qui correspond au vôtre, ramener des dizaines de milliers de personnes à la Bastille, lever un espoir, être à 15% dans les sondages? Est-ce qu'il n'y a pas un moment donné où vous vous dites qu'il se passe quelque chose de votre côté et dans votre camp et que vous n'avez pas envie de le saluer?
Moi, je salue tous ceux qui, bien sûr, ont envie d'exprimer leur méfiance vis-à-vis de Hollande, parce que c'est quand même ça, hein, Jean-Luc Mélenchon. C'est aussi tous ceux qui ont envie d'être critiques vis-à-vis de Hollande, qui ont envie de dire, bon, mais là, ça suffit pas. Qu'est-ce que c'est que cette politique-là? Qu'est-ce qu'elle a de gauche, hein, cette politique? Donc voilà, c'est cela que Jean-Luc Mélenchon, effectivement, arrive à rassembler. Et moi, je trouve que c'est très bien qu'ils soient de plus en plus nombreux à se dire, bon, mais quand même, il faudrait pousser plus en avant. Maintenant, ben, j'ai pas la même politique que lui. Et faire référence à Mitterrand, c'est pas l'insulter, hein. Lui-même s'en revendique et lui-même le prend comme modèle à chaque fois qu'il intervient et compare même son programme à celui de 81. Donc c'est simplement respecter y compris ce qu'il dit de lui. Mais c'est pas une politique dans laquelle moi je me reconnais.
Oui, mais ouvriers vont chez lui. Les jeunes, les ouvriers, les émigrés, ils vont chez Mélenchon.
Ben vous savez, ça avait été aussi ça avec Mitterrand. Et nous, Mitterrand, on avait bien dit attention, attention, c'est des illusions.
Mais est-ce que c'est pas ça votre problème? C'est pesé beaucoup plus. Oui. Quand même.
Mais voilà.
Il a fait partie du gouvernement.
Voilà, mais vous voyez, c'est la même politique que le Front de Gauche veut refaire. C'est-à-dire, il veut essayer de peser dans les urnes sur la politique de Hollande, de la même façon que le Parti communiste. Ouais. Je termine. De la même façon que le Parti communiste a essayé de peser sur Mitterrand. Et nous, ce qu'on a constaté de cette politique, c'est que le Parti communiste, même avec 15, 16%, 18% après dans les législatives en 81, et avec des ministres communistes au gouvernement, ils n'ont pas pesé sur la politique de Mitterrand, ils l'ont pas empêché de prendre le tournant de la rigueur. Et voilà, ils n'ont pas pesé. Donc nous, cette politique-là, on la partage pas. C'est pas.
Mais est-ce qu'il
n'y
a pas une hypocrisie, est-ce qu'il n'y a pas une hypocrisie à dénoncer sans cesse la révolution citoyenne de Jean-Luc Mélenchon, alors que vous-même, vous êtes candidate à l'élection présidentielle, vous vous prêtez à ce jeu démocratique et vous, finalement, vous passez aussi par les urnes pour faire votre révolution?
Ah non, pas du tout. Mais il n'y a pas du tout d'hypocrisie. Mais vous savez, moi, je dis que les élections, ça ne permet pas de changer la vie des travailleurs. Ça ne permet pas aux travailleurs de changer leur sort.
Mais alors pourquoi vous êtes là, alors, Nathalie Arthaud ?
Mais alors justement, parce que les élections, ça sert à quelque chose quand même, figurez-vous. Eh oui, ça sert à s'exprimer.
Alors merci le CSA. Et l'égalité du temps de parole, finalement.
Bah, on est dans une démocratie, non? Ça a l'air de vous gêner ou pas?
Ah non, non.
Que moi, je m'exprime. Excusez-moi, mais j'ai envie de m'exprimer. Et moi, dans cette élection, si j'ai envie de dire, eh bah oui, les élections, ça changera pas notre vie, mais ça sera les luttes, hein, ça sera un mai 68 et un Front populaire, est-ce que j'ai le droit de le dire ou pas?
Bien sûr.
Ah, vous me rassurez. Non, bien sûr. Vous me rassurez. Alors moi, je le dis, oui, en réalité, c'est pas les élections. Hein, mais c'est d'inverser le rapport de force. C'est que les travailleurs se fassent sentir leur pression sur ce patronat qui aujourd'hui leur inflige tous les reculs, hein, qui nous dit qu'on peut pas payer les retraites comme il y a 30 ans, qu'on peut pas soigner comme il y a 30 ans, qu'il faut reculer sur l'éducation. Moi, je suis pour qu'on dise oui. La seule façon de sauver notre vie, eh bien, c'est d'inverser, hein, le rapport de force et que les profits qui sont faits dans la société et les richesses nous reviennent. Et ça passera par des luttes. Alors voilà. C'est mon point de vue. C'est ma politique. Il me semble que j'ai aussi le droit de la défendre.
Rosine Fèvre. Cela dit, quel regard, avec le temps qui passe, vous portez quand même sur le communisme, on va dire façon Union soviétique? Est-ce que vous faites une autocritique, enfin une critique de ce...
Nous n'avons pas d'autocritique.
Du mur de Berlin,
nous n'avons pas d'autocritique à faire. Vous savez que nous sommes héritiers du courant trotskiste, hein, qui a combattu l'installation au pouvoir de la bureaucratie stalinienne et qui a toujours considéré que le courant communiste n'était pas représenté par cette caricature dictatoriale. Je vous rappelle quand même que les trotskistes ont été les premiers à peupler les camps de les goulags en Union soviétique et qui ont mené le combat après la chute du mur de Berlin. Je vous parle des années 20, hein, et qui ont toujours dit, la réalité, c'est que là, la révolution est en train de dégénérer. Mais voyez,
vous parlez quand même le même langage que les communistes, hein, tout de même.
Quel communiste?
Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous sépare aujourd'hui d'eux, fondamentalement?
Vous l'avez dit vous-même, le Parti communiste avait a eu des ministres, cherche à avoir des ministres, cherche à s'intégrer finalement à l'appareil politique, à gérer loyalement finalement dans le cadre de cette économie capitaliste. Pas nous. Nous pensons que cette économie, elle peut pas marcher, qu'elle peut pas tourner rond. Donc, non, mais nous, mais vous savez, c'est tout ou rien, les travailleurs, ils savent aussi tout ou rien.
Ils sont pas nombreux à vous suivre, pourtant, il y a 0,5, 1%.
Et oui, mais ne soyez pas étonnés de ça, hein, vous savez.
Mais comment vous expliquez ça, justement?
Parce que tous ceux qui sont à contre-courant, qui pensent que, la société, on peut la changer de fond en comble, ils sont,
ça fait peur,
ils sont bel et bien à contre-courant, mais comme Voltaire et Rousseau l'étaient en leur temps. Et la révolution, elle s'est inspirée de toutes leurs idées. De la même façon
donc
que les opposants
que
en Tunisie. Mais bien sûr, nous pensons qu'un jour ou l'autre, nous raison. En tout cas, qu'un jour ou l'autre, les exploités auront envie, effectivement, oui, le grand soir, c'est-à-dire des, mais vous nous dites comme si c'était un mythe, mais à Paris, en 1871, il y a des femmes et des hommes qui ont cherché à diriger leur vie, à prendre eux-mêmes la société en main. Ils ont inventé la Commune de Paris, une société. Et oui, et après...
Donc il faut une révolution ?
Oui, moi je pense qu'il faut une révolution, c'est-à-dire une mobilisation que les travailleurs, les exploités se disent, il y en a marre de subir, il faut qu'on ait enfin un contrôle sur nos vies, sur ce qui se passe. Et ça passe par un contrôle sur les entreprises et sur le pouvoir politique, il faut s'organiser autrement.
Ça veut dire qu'il faut aller dans la rue ? Bon, on n'est plus à l'époque des piques et des...
Évidemment.
Des barricades. Mais est-ce que c'est à l'image de l'Espagne ? Que c'est aller se battre dans la rue.
C'est surtout à l'image de mai juin 36 pour nous, voyez, de ces occupations d'usines où les travailleurs faisaient jouer leur force collective, étaient en grève, et nous on espère qu'à travers ça, eh bien effectivement ils obtiendront ces objectifs-là, hein, l'interdiction des licenciements, le droit de d'entrer dans ces conseils d'administration, de tout contrôler, le droit qu'on donne le droit au secrétaire, au comptable de tout dire de ce qui se passe, de ce qui est discuté, de l'argent qu'il y a ou pas, qu'on fasse la transparence, que les travailleurs le droit d'aller de partout dans les entreprises, de tout dire, que ça n'est plus de secret. Parce que ces entreprises-là, eh bien, c'est un bien collectif, c'est un bien commun. Et c'est notre vie qui en dépend. C'est les consommateurs, c'est les populations, c'est une question aussi sur l'environnement. Il faut qu'on ait la maîtrise de ce qui se passe. Ça ne doit pas être des tombes de secret, les entreprises et ces grands groupes capitalistes. Ça ne doit pas être ça. Hein, où on voit Total qui se comporte comme un apprenti sorcier en mer du Nord, mais qui crée quasiment
une
catastrophe économique par an. Oui, une mamie de la population, justement, pas d'une minorité qui n'est qu'aveuglée par leur profit. Mais bien sûr les diriger. Mais ça, justement,
et si on impose tout le monde à 100%, ça comme vous le dites, est-ce que ça ne va pas dissuader des gens brillants et capables de diriger, d'aider à cette révolution, de s'expatrier? Ouais.
Mais des gens brillants et capables, il y en a plein qui sont dans la population et qui peuvent prendre leur place. Si ces gens-là ne pensent qu'ils peuvent être qu'au service de Madame Bettencourt, écoutez, c'est dommage pour eux, tant pis pour eux. Hein, s'ils pensent que toute leur vie, il faut qu'ils se consacrent à verser à Madame Bettencourt des millions, vous vous rendez compte, c'est 360 millions de dividendes qu'elle va avoir l'année prochaine en 2012, au titre des capitaux qu'elle a apportés à L'Oréal.
Elle crée de l'emploi.
Non, c'est les travailleurs qui créent la richesse. Hein, c'est tous les travailleurs, c'est toutes les petites mains de L'Oréal et de tous ces sous-traitants qui sont bien souvent payés à coups de lance-pierre qui font ces richesses-là. Et les travailleurs, ils se payent leur salaire en travaillant.
Nathalie Arthaud, rarement les partenaires sociaux auront été comptés en période électorale, alors que François Hollande veut réconcilier le PS et les syndicats, Nicolas Sarkozy leur tape dessus. Pensez-vous que c'est une stratégie brutale pour plaire à l'électorat d'extrême droite, ce que fait Nicolas Sarkozy?
Ah, je pense que Nicolas Sarkozy, d'abord ne supporte pas les travailleurs qui se battent, ça c'est sûr. Effectivement, la véhémence avec laquelle il a dénoncé les travailleurs d'ArcelorMittal, c'était très révélateur de cela. Ça ressemblait beaucoup à la façon dont il a traité les travailleurs de Continental, de Clairoy. Et puis effectivement, de voir là la CGT critiquer, c'est insupportable pour lui, tout simplement. Donc, et puis par ailleurs, c'est vrai que de toute façon, là, Nicolas Sarkozy a besoin de rassembler son camp, son électorat, c'est sûr.
Donc, vous diriez que c'est une provocation électoraliste ?
Non, mais lui s'adresse en priorité, c'est évident, à la bourgeoisie petite et moyenne, aux petits patrons qui ont pas spécialement, qui portent pas dans leur cœur les syndicats, aux patrons qui considèrent que ces petits patrons qui souvent sont prompts à considérer les travailleurs comme des fainéants. hein, ou les chômeurs comme des gens qui l'ont quand même bien cherché hein, d'être au chômage.
Est-ce que vous craignez que ce discours prenne dans l'opinion ?
Bah, dans les classes populaires, honnêtement, je crois pas. Je crois pas. Vous savez, compris ce discours, ce mépris vis-à-vis des chômeurs, je crois que maintenant, ça ne trompe personne parce que, vous savez, les chômeurs, on les a vus se battre à un moment ou à un autre, que ce soit les Lejabi, que ce soit les Petroplus, que ce soit les Arcelor, bec et ongles pour garder leur boulot.
Enfin, en 2007, une partie de l'électorat ouvrier a voté pour Nicolas Sarkozy. En 2007, la France était à droite. À votre avis, en 2012, est-ce qu'elle l'est toujours?
Bah, vous savez, avec 1 million de plus, hein, vous savez, les Moulinex qui se sont retrouvés il y a 10 ans, effectivement licenciés, et qui aujourd'hui se retrouvent avec les minima sociaux, je peux vous dire que là, voilà, on voit d'où vient le chômage. Qui sont les fabricants de chômeurs? Je crois que ça trompe plus personne, hein, ce discours d'accuser les chômeurs, d'être responsables. Je crois que tout ça, c'est du passé. Vous savez, sur les 3 dernières années, il y a quand même 900 usines qui ont fermé. Ça en fait une par jour. Hein. Et ce sentiment d'injustice... il est présent dans vraiment dans les classes ouvrières, la classe ouvrière, oui.
Pour qui vous allez demander à voter pour le deuxième tour? Pour qui vous allez appeler à voter pour le deuxième tour, Nathalie Arthaud?
Eh bien, nous prendrons position le soir du premier tour, comme à chaque fois. Voilà, parce que on a toujours tendance à zapper hein, ce premier tour, cette campagne là au premier tour, et justement à nous priver de parole au premier tour. Donc, nous on fait campagne au premier tour, et le soir du premier tour,
vous donnerez une consigne de vote.
Voilà, claire. On s'exprimera, mais comme toujours. Nous sommes toujours très clairs.
Ben alors, tout
là-dessus, il n'y a pas de souci.
Tout va bien. Nathalie Arthaud, merci d'avoir été l'invitée de Mardi Politique, l'émission politique de RFI, en partenariat avec 20 minutes, Le Point et France 24. Cette émission a été réalisée par Mathias Golshani. Si vous voulez nous écrire sur internet mardi.politique@rfi.fr, on se retrouve mardi prochain. Les invités de Guillaume Nodin seront Olivier Besancenot, du nouveau parti anticapitaliste et soutien de Philippe Poutou, et Pierre Laurent, secrétaire national du Parti communiste et soutien de Jean-Luc Mélenchon. À la semaine prochaine.